La maison de la poésie de Rennes.
Bonsoir à tous. Est-ce que vous m'entendez bien ou vous préférez que je prenne le micro ?
Alors, nous sommes ici à la maison de la poésie
donc,
à Rennes.
Nous avons le plaisir de recevoir ce soir.
Je ne sais pas danser, mais je danse. Je ne sais pas chanter, mais je chante.
Cette expérience est unique dans l'univers.
Voir à chaque poème, je lis le mot.
Semblable, similaire.
Et puis on voit comment il se débrouille avec la page.
Que cette lecture nous laisse nus, dépouillés, et ainsi tout disposés à accueillir une autre, un autre en nous, que nous n'aurions pas osé imaginer.
C'est pas vivre, mais je vis.
Lecture. Françoise Ascal.
Qui a l'ambition de mêler différents thèmes, une interrogation sur le statut de la nature aujourd'hui dans notre société. C'était quelque chose qui me tenait à cœur et qui est né de mon contact avec des arbres extraordinaires dans ce parc où j'étais en résidence. Ces arbres avaient une telle présence, un tel appel, qu'ils m'ont ramené chez Bachelard, chez Gaston Bachelard. Et ce livre fait un chemin de relecture de Gaston Bachelard. Rantilly, 6 janvier 2010. Quelques flocons. Le silence. Sensation de profondeur, de calme. Espace qu'il va falloir apprivoiser, tant suspendu derrière les grandes fenêtres, tant de blancheur dans lequel je dois me glisser, en douceur, ou peut-être en violence, je ne sais pas encore. Il y a 10 ans exactement, à la même heure, je roulais dans une autre blancheur, dans l'effroi des arbres mutilés, foudroyés, abattus. La tempête venait de sévir. Je traversais le chaos des petites routes de Seine-et-Marne pour rejoindre et caresser le visage de ma mère une dernière fois. Ce 6 janvier, la paix venait de tomber sur son corps de vieille dame usée. 10 ans plus tard, j'entre dans une forêt cicatrisée. J'ai devant moi le temps d'une gestation pour faire naître un livre. Que Bachelard m'emporte, sans nostalgie, vers l'ailleurs. Vers le vif argent du vivant, c'est imprévisible que j'espère. Le poids du lieu. Impossible de l'ignorer, comme si la terre n'avait pas le même âge partout, la même gravité. La cour rectangulaire, les pavés, le kiosque, les écuries, le graphisme noir et dur des branches derrière les vitres pèse plusieurs siècles. Nous autres, humains de passage, empruntons quelques éclats à la durée, histoire d'avoir moins peur. Pourtant, la mort bat, ici aussi, travaille sous l'écorce, mais plus discrètement qu'ailleurs. Profondeur du silence. Les mots en paraissent plus proches, à fleur de terre. Rien ne vient s'interposer entre le regard et le mot qui a envie de naître. Ici, je peux entendre le besoin des mots d'apparaître, même sous la neige. Qui a besoin de nous, de moi ? Comment savoir dans le tumulte ordinaire ? Se peut-il qu'une phrase réclame attention, ici, dans ce silence habité ? Une phrase pas plus importante qu'une pousse de pissenlit. Une phrase qui n'ajoutera rien, n'aura rien à offrir de nouveau sous le soleil. Non, je n'entends pas des voix, je ne me crois pas investie d'une mission. Il est juste question d'une infime vibration sur la peau. Un vent d'aigrette, peut-être. Celui qu'André Breton sentait sur ses tempes lorsque la poésie l'émouvait. Ce serait trop dire. La phrase dont je parle est nue. Inutile, perdue d'avance, autant qu'obstinée à vivre. Écrire ? Une entreprise d'arrachement à la partie lourde de l'être. Écrire pour respirer, parce que la vie coupe le souffle. Son nom fait lever une constellation d'images dont certaines se sont enfouies dans ma chair, comme des graines. Il me faut aujourd'hui visiter ce jardin, accueillir les herbes folles, honorer les persistantes, les toujours vivaces en dépit d'eux, qui m'ont aidé à grandir. Gaston Bachelard. Air, terre, eau, feu. Autant dire le monde, sa pulpe, son ciel et ses étoiles. Autant dire la substance humaine. Hydrogène, oxygène, azote, carbone, nous partageons la matière du monde. Le calcium de nos eaux est le même que celui des planètes les plus lointaines. À mesure que nos doigts courent sur le clavier, que le virtuel se déploie vertigineux, il se peut que nous devenions amnésiques. Bientôt, nous ne pourrons plus contempler la grande fresque de Gauguin intitulée « D'où venons-nous ? Qui sommes-nous ? Où allons-nous ? » Nous aurons oublié sa langue. Prendre peur serait raisonnable. Solitude heureuse. Ma colonne vertébrale cherche la verticalité. Ce sont les lignes avoisinantes qui agissent. Dans la cour rectangulaire, les troncs des tilleuls se dressent, puissants, sereins. Les fréquenter permet d'entrer dans un mode de perception fine. Ici, écouter, c'est voir. Et voir, c'est revoir. Revoir le jour après la nuit. Ouvrir les pores de sa propre peau, comme autant de minuscules fenêtres élargissant la prison. Prison du corps et de l'âme inquiète. Prison obscure où s'ébattent nos peurs, où survivent d'archaïques démons. La beauté, lorsqu'elle surgit, fissure nos édifices, qu'ils soient de crainte ou de certitude. Depuis Rimbaud qui l'a trouvé amer, les artistes préfèrent en ricaner. Le temps n'est plus à la célébration. Mais faut-il renoncer à entretenir l'étincelle ? Si le monde est en sang, en chaos, en violence toujours renouvelée, si le sens bégaye, faut-il à notre tour bégayer ? Dresser un miroir sur nos seules faillites ? Abandonner à eux-mêmes les éclats de lumière, fragiles, comme nos abeilles en voie de disparition. Suis-je toujours vivante ? Est-ce que j'appartiens encore à la communauté qui aujourd'hui agit, croit, espère, se projette ? Tenter de comprendre ce monde nouveau qui apparaît, l'explorer sans a priori, lui poser des questions, même naïves, même chargées d'une émotion d'un autre âge. C'est du statut de ma peau dont il est question. Peau et expérience, peau et émotion, peau et mémoire. Mon corps d'encore vivante, esprit, jardin, chair, enfance, battement de cœur, nuage, indémêlable. Comment ne s'affolerait-il pas ? N'est-il pas menacé, condamné à trancher dans ses radicelles, à bétonner ses obscurités si peu fonctionnelles, à entrer dans le moule tendu ? Mon « je » d'aujourd'hui n'est pas rentable. Comme ces friches en lisière de ville qu'il faut éradiquer. Une fois exterminés les Indiens, on a créé des réserves. Une fois saccagé la diversité animale et la flore, on a créé des parcs naturels, des espaces protégés, des zoos. Aujourd'hui, nous créons des réserves d'obscurité. Après le Canada, les États-Unis, l'Italie, la Slovénie, c'est au tour de la République tchèque de légiférer. À la frontière polonaise, 75 km² de territoire seront soustraits à la pollution lumineuse. Un confetti louable et dérisoire en faveur des oiseaux migrateurs que l'excès de lumière et l'absence de cycles naturels affolent et désorientent. C'est par milliers qu'ils meurent. Exit la nuit. Les villes étincellent et pulsent leur ouate sans répit. Mon village, de 300 habitants aux confins de la Seine-et-Marne, n'échappe pas à la règle de surexposition. Les réverbères brûlent jusqu'à l'aube. Et pourtant, jamais comme aujourd'hui, le contemporain n'a reçu en plein visage le faisceau de ténèbres qui provient de son temps, note le philosophe Giorgio Agamben. Il ajoute que seul un travail d'archéologue peut donner accès au présent. pour espérer approcher ce qui trop aveugle, il faut remonter le temps, patiemment explorer, comprendre les liens qui ont uni les générations l'une à l'autre, ne pas craindre de descendre jusque dans la matière archaïque, dans l'immémorial. La frénétique injonction de rupture qui sévit sous de multiples formes peut-elle encore être contrecarrée ? Le printemps travaille les arbres du parc. Il agite les humeurs humaines comme les sèves. L'énergie cosmique dont parle Gaston Bachelard se fait-elle sentir dans les corps abandonnés sur une bouche de métro parmi les cartons éventrés ? Atteint-elle ceux que nous jetons dans les marges, ceux que nous condamnons à dériver sans fin ? Est-ce qu'une fleur de marronnier, un instant balayée du regard, ouvre un instant d'enfance dans les vies les plus cassées ? Revenir à la table, croire possible de voir plus loin que la vitre sale. Urgence de se déleurrer. Le leurre, j'en connais pourtant les formes changeantes et les ruses mortelles. Du bout de chiffon rouge agité sous l'œil de la grenouille, au ver grouillant entre les pattes de l'écrevisse, j'ai entendu les poissons tressaillir, la taupe couiner, la souris gémir à petits cris. J'ai vu le visage ultime de ma mère, grands yeux révulsés sur le vide. Le leurre brille de mille lueurs. Le leurre est pollen d'or sur mes paupières qui n'y voient que du feu. Le leurre m'assaille, me circonscrit, me tue. Où l'ouvert du ciel, le regard juste, la vision délestée. Voir, voir sans moi. Gaston Bachelard, rediriez-vous que la vie est ronde ? Qu'elle a goût de fruits et qu'un mot bien choisi l'ouvre comme un festin. Dans les jours de bonheur, le monde est comestible. Car je doute, doute carcéral, 21e siècle poursuivant le travail de sape du précédent, resserrant les nœuds, et bientôt, qui respirera sous les déchets, sous les nappes de pétrole et les bilans boursiers, sous les tentes de réfugiés, sous l'expansion des cellules cancéreuses, sous les chairs greffées aux machines, les métaux lourds, les nanoparticules, sous le joug sanglant des despotes de l'ombre. Quel souffle menu, dans quelle poitrine anonyme, rescapée de quelle mutation ? Voulez-vous être calme ? Respirez doucement devant la flamme légère qui fait posément son travail de lumière, écrit Gaston Bachelard. Faire posément son travail de lumière. N'est-ce pas ce qu'il a toujours fait, tel un maître taoïste ? Ce qu'il nous invite à faire à notre tour. Il a 77 ans, il lui reste une année à vivre. Enroulé dans son châle de laine rouge tricoté main, il achève les dernières pages de La flamme d'une chandelle. Il écrit « En somme, tout compte fait des expériences de vie, des expériences écartelées, écartelantes, c'est bien plutôt devant mon papier blanc, devant la page blanche placée sur la table à juste distance de ma lampe, que je suis vraiment à ma table d'existence. Oui, c'est à ma table d'existence que j'ai connu l'existence maximale, l'existence en tension vers un avant, vers un plus avant, vers un au-dessus. Tout autour de moi est repos, tranquillité. Mon être seul, mon être qui cherche de l'être, est tendu dans l'invraisemblable besoin d'être un autre être, un plus qu'être. Et c'est ainsi qu'avec du rien, avec des rêveries, on croit qu'on pourra faire des livres. Je vais vous lire un texte qui s'appelle « Noire racine », qui a fait l'objet d'un... que vous ne trouverez pas parce qu'il n'y a que très très peu d'exemplaires. C'est un livre qui a été accompagné par une plasticienne qui s'appelle Marie Allois et qui a fait de très belles aquarelles. Et c'est les éditions Almanach qui a publié ce livre en très peu d'exemplaires. Ça s'appelle donc Noir Racine. Cela commence toujours par un mélange de noir et d'odeur. On ne baisse pas la tête pour franchir le seuil. On appartient au monde de l'enfance. Les adultes, eux, courbent leurs épaules au passage. D'abord, on est aveugle. Le soleil tape trop fort dehors, les ouvertures sont minuscules dedans. On tâte du pied les grandes dalles du sol, irrégulières, toujours un peu humides malgré juillet. Ici, tout est mouillé. Les murs suintent. Des fleurs d'écume y naissent qui s'effritent entre les doigts. L'odeur elle-même charrie du moite. Choux en fermentation, prunes pourries, pommes blettes. Les vaches, de l'autre côté de la cloison, piétinent la paille souillée d'urine. L'odeur est un coup fin, un giron. On peut s'y abandonner, c'est chaud et suffocant. Peut-être que cela empêche la peur d'entrer, le temps de fuir. Lorsque les yeux s'habituent à la pénombre, on la voit, proche du fourneau. Ses mains vont et viennent, comme toujours. La laine entre ses doigts est noire, la robe noire, le tablier noir. On ne sait pas encore qu'on lui appartient, que le noir racine qui la tient debout a lancé des germes au-delà d'elle-même, sautant d'une génération à l'autre. Ceux qui se sont arrachés à l'ici n'y pourront rien. Dès l'origine, on a les pieds soudés à la terre, terre battue et rebattue, comme ceux qui n'ont pas de nom et pas d'histoire. Avec la première chasse aux cétoines, la première pêche aux vairons, on est ferré. Le trident s'est planté là où ce n'était pas prévu, dans la chair fraîche, à même la gorge. Les poissons ne crient pas, juste quelques sursauts sur la berge, quelques torsions dans la poêle. Les insectes, les papillons, meurent en silence, leurs ailes déchirées sous les coups maladroits du filet. La langue du monde n'a pas de bouche. Les lèvres de celle qui cache ses larmes sont cousues. Son savoir est muré, enfoui sous un amas de chemises de peau et jupons superposés. Dans l'ombre stagnante de la maison se glissent parfois d'étroites lueurs, des lézardes bleues. Il faut courir, droit vers ce qui brille, écaille ou élytre, traverser le silence exorbitant de ce qui ne cesse de bruire sans énoncer une parole. Il faut obéir à la voix sans contour, s'éloigner d'eux, s'avancer vers, reculer, approcher, clairière ou grotte, on ne sait. Courir chaque été dans la dévorante battue, sans savoir où mène cette errance, sans la moindre assurance de recevoir la manne, quelques secondes d'apesanteur, quelques grains d'extase fissurant la nuit. Et l'on revient chaque soir vers elle et ses genoux usés. On réintègre le cœur du sombre, le vieux berceau noir qu'une vie entière ne suffira pas à déchiffrer. Jusqu'au jour où, sans qu'on l'ait vu venir, c'est l'heure. La chute dans le temps. Non plus le temps qui suspendait le souffle dans la course vive, dans l'éperdu vagabondage, mais celui qui fait haut de toutes parts, emportant les choses, les instants, les êtres. Loin, loin de soi, loin de la silencieuse aux mains agiles, loin des seuils séparant l'ombre de la lumière, loin de la paix qui est peut-être l'autre nom de la mort. L'exil a la couleur de l'encre. L'odeur du papier, bâton répété obstinément, ligne de lettres et bientôt de mots, jeté d'une rive à l'autre par-dessus l'absence. Tandis que la main s'enhardit, la toute de noir vêtue décline. On ne saura rien du sang répandu qui a noyé son âme, de la boue des tranchées pétrifiées dans son corps, ensevelissant l'aimé, puis le frère trop jeune, puis les rêves. Les mots ont des dorures de cétoine, des pigments de truite arc-en-ciel. Sous leur masse immobile vibre la vie, Il suffit de les soulever, un à un, avec précaution, comme on lève les pierres au fond de la rivière pour voir apparaître ce qu'on ignorait. Les mots gonflent dans la gorge, là où d'anciennes blessures ont laissé leurs cicatrices. Les mots roulent comme des larmes sur la page. Les mots déferlent et courent sur le moindre brin d'herbe. Le monde est rempli de signes. Lire, écrire, même emportement. Lire, écrire, contre l'obscur. Avec l'après-espoir de passer le seuil sans baisser la tête.